les règles d'écriture. Et les règles d'écriture du Sefer Torah, elles sont pour beaucoup écrites dans la Maseret Megillah, dans le traité de la Gemara qui est consacré à Purim. On parle de la façon dont on écrit un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que l'écriture du rouleau d'Esther, de la Megillat Esther, obéit à des règles qui se retrouvent à être les mêmes règles que les règles d'écriture du Sefer Torah. Il y a une règle fondamentale qui est la règle du Sirtut, c'est-à-dire on doit faire des lignes. Normalement, quand on écrit je sais pas si on veut écrire un Sefer de Yeshayahu ou d'un Denvim, on peut écrire comme ça, on peut écrire sans ligne, on peut écrire directement. La Megillah, on ne peut pas l'écrire si on n'a pas tracé d'abord des lignes. Sefer Torah non plus, on ne peut pas écrire si on n'a pas tracé des lignes. Et le Maharal explique que cet inyan de tracer des lignes, c'est moré à la yosher. Ça fait référence évidemment à la droiture. C'est la ligne droite, la ligne en question sur laquelle on va poser les lettres. C'est quelque chose qui indique la ligne droite, le fait que les choses doivent être dues. Dans les Chamishé Chumshé, ils ne sont pas soumis aux humeurs du temps, quoi. On va écrire selon que le sofer il est en forme ou qu'il est déprimé, il va écrire avec des lignes qui montent, avec des lignes qui descendent, etc. Ça doit rester toujours de la même manière, et donc ça doit être droit. L'envim, ça dépend. Comme je vous ai dit, dans l'envim, on n'a pas besoin de faire des lignes. Aujourd'hui, on fait des lignes parce que c'est plus joli, pour des raisons esthétiques. Mais ce n'est pas une obligation dans l'écriture de Kitvei HaKodesh. C'est-à-dire qu'effectivement, l'envim, ça pouvait s'écrire en fonction de la fonction de la nevoua. Si la nevoua, c'était des remontrances, ou si c'était des félicitations, ou etc. En fonction de ça, on pouvait orienter on pouvait écrire de telle ou telle manière. Donc, sur ce plan-là, la Megillah, c'est comme un Sefer Torah. Une des raisons pour lesquelles les autres documents, à la fin des temps, vont disparaître, alors que le Sefer Torah, alors que les Chamisha Chumshei Torah, si vous voulez, et la Megillat Esther, eux ne vont pas disparaître, c'est justement que la partie de la Vos, ça sera une autre époque. Et une époque dans laquelle une époque complètement stable. Et donc, des textes qui peuvent être écrits selon les humeurs du temps, ils n'ont pas lieu d'être dans cette époque-là. Mais la Megillah et le Sefer Torah, qui ne peuvent pas être écrits autrement que sur des lignes droites, donc, qui sont complètement stables, ces textes-là vont rester. La Torah, qui est le plan du monde, évidemment, elle n'est pas susceptible de bouger. On comprend bien que les Chamisha Chumshei Torah ne vont pas bouger. Pardon. l'écriture de la Megillah, on utilise une drôle d'expression, on dit qu'il y a Amita shel Torah, comme la vérité de la Torah. Le mot Emet, qui veut dire vérité, comme ça on dit Ani Rishon, Vani Acharon, Vani Hu. Ça, c'est un passouk dans le Navi Yeshayahu. Les lettres Aleph Mem Tav, qui sont le début, la fin et la lettre du milieu de l'alphabet, quelque part, ça dit bien, en quelque sorte. C'est ça, Emet, c'est la totalité de l'alphabet, en fait. C'est justement la Megillat Esther qui a besoin, justement, de Sirtut, Kamita Shel Torah, comme on dit, parce que c'est marqué dans la Megillah, Vezichram lo yasuf mizaram. Le souvenir de ces jours de Pourim ne disparaîtra pas de leur descendance, de la descendance des Bnei Israël. Loi batel. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, comme la Megillat d'Esther, c'est un texte qui parle de la réalité d'Israël, du fait que le clan d'Israël est une nécessité pour le monde. Elle ne dépend de rien dans l'intérieur du monde. Le monde dépend d'elle. C'est ce qu'on pourrait dire « Ala bemarchava trila ». C'est quelque chose qui a été pensé dès le départ. Ça n'a pas été dit sur les autres livres du Tanakh. Le salut ici, il vient d'Hachem, évidemment, uniquement d'Hachem, parce que justement, ce salut, il ne dépend pas d'une certaine réponse du monde. Dans le projet, c'est tout ce salut, comme je vous ai dit, il existe aussi fortement que le projet de destruction. Il ne peut pas y avoir de projet de destruction s'il n'y a pas en même temps ce projet de salut. Les choses commencent et terminent uniquement avec Hachem, en quelque sorte. Ça, c'est, si vous voulez, ce que dit au fond cette idée que ça ne pouvait pas être autre chose qu'un semblant, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de réalité de ce genre de danger n'avait pas d'existence par lui-même. Maintenant, la sortie de cette situation-là, elle s'est faite de deux manières. Il y a une partie de la sortie, enfin, la sortie, elle s'est faite par la destruction d'Aman, et la sortie s'est faite aussi par l'élévation de Mordechai. Il était très possible, il aurait été possible que les décrets d'Aman aient été annulés, enfin, ou contrecarrés, disons, on verra, on va revenir là-dessus, sans que Mordechai devienne grand vizir. Bon, c'est pas sûr que c'était un tel cadeau d'ailleurs pour Mordechai de devenir grand vizir. Vous savez bien ce qui est écrit à la fin, c'est il est seulement aimé en quelque sorte Merov Echav, de la majorité. Il n'est pas aimé par tout le monde, Mordechai. Et c'est pas simplement qu'il avait une tête qui ne revenait peut-être pas à tout le monde, mais c'était aussi que il y avait une ta'ana, c'est que du coup il allait s'occuper des affaires du royaume et de ce fait il allait moins étudier, donc il s'occuperait moins de Torah, et par conséquent quelque part c'est une perte. Donc les gens n'étaient pas tellement heureux que Mordechai délaisse l'étude pour aller s'occuper des affaires du royaume. Mais il y a eu deux choses. Il y a eu la chute d'Aman et il y a eu l'élévation de Mordechai. Maintenant, on aurait pu imaginer que sans que Aman soit complètement détruit, mais que d'une manière ou d'une autre, Mordechai arrive au pouvoir et qu'il puisse contrecarrer les vues de Haman. Or, dans cette halakha qui dit que Hayav Adam Libesume, qu'on doit s'embrumer en quelque sorte, de telle sorte qu'on soit incapable de faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai, on voit très bien que ça fait référence aux deux situations, aux deux choses qui se sont passées. Le Gaon y traduit Arur Haman par la Nekama contre Haman. Il s'agit d'une nekama par rapport à Haman. Pourquoi est-ce que c'est une nekama? Et qu'est-ce que c'est qu'une nekama en général? Et tout le monde sait que la nekama, et c'est une chose qui nous est interdite en tout cas. Il y a un pasouk dans la Torah qui comme tu n'as pas le droit de te venger. Or, le nom Nekama, il est entre deux Shemot, quel Nekamot Hashem, dit le verset. Entre deux noms divins, quel et Hashem, il y a le mot Nekama. Donc, ça veut dire que si le mot Nekama était quelque chose de totalement négatif, il ne pourrait pas figurer entre deux noms divins. On ne pourra même pas la coller à un seul nom, mais là, il est vraiment entouré de deux noms divins. Dans la Torah, il y a une situation de Nekama qui a été donnée comme mitzvah. Vous vous souvenez, à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, juste avant, enfin, comme dernière mitzvah, Hachem lui donne la possibilité de prendre la nekama de Midian. Bon, c'est tout un sujet parce que Midian pour Moshe Rabbeinu, c'est pas n'importe quoi. Midian pour Moshe Rabbeinu, c'est quand même l'endroit où il s'est réfugié. C'est vrai qu'il a été très mal accueilli par Yitro, mais enfin, il a quand même eu la vie sauve grâce à Tzipora et il a finalement trouvé sa femme en Midian. Mais seulement Midian, ce sont ceux qui ont participé à l'opération conseillée par Bilham, de prostitution des princesses de Midian et Moab pour faire tomber les Bnei Israël dans la Avoda de Baal Peor, ce qui a entraîné une magéfa, qui a entraîné tragédie dans le cas d'Israël. Et Midian, en fait, a attaqué Israël alors que Midian n'était pas en danger. Moab était en danger. Enfin, il se pensait en danger. Mais Midian et Moab, c'est deux. On voit très bien dans la parasha de Balak, on voit bien qu'ils étaient ensemble. De temps en temps, il y en avait un qui était le roi, etc. On en reparlera peut-être dans le shiur de Chumash, parasha de Balak, mais Midian, il n'avait pas de raison de lutter contre les Bnei Israël. Donc, ils ont fait du mal aux Bnei Israël sans raison. La raison pour laquelle nous, le mal existe à un certain niveau dans ce monde-ci, et on a déjà vu que la gloire d'Hachem, elle peut se manifester de deux manières, ou bien parce que les hommes obéissent aux lois d'Hachem, ou bien parce que les hommes n'obéissant pas aux lois d'Hachem sont sanctionnés par Hachem. Donc finalement, c'est Hachem qui montre bien qu'il est le maître. Ou bien parce qu'on lui obéit, ou bien parce que si on lui désobéit, on est sanctionné. Donc le mal doit être sanctionné. Alors, c'est Massé Jérôlium, on voit très bien que le mal n'est pas toujours sanctionné. Il y a malheureusement beaucoup de situations où le mal, à vue humaine, n'est pas sanctionné du tout. Bon, nous, notre Emouna nous dit qu'il sera sanctionné. Peut-être pas dans ce monde-ci, mais dans Olam Haba en tout cas. Mais bon, mais nous, c'est notre émouna, mais on ne le voit pas. Une nekama, c'est quand effectivement le mal est sanctionné. Au moment où le mal est sanctionné, ça s'appelle nekama. Alors, pour Hachem, il y a toujours la nekama. C'est la possibilité qu'a Hachem de sanctionner le mal.
Et Slicha, oui, on peut différence. Demander...
Qu'est-ce que tu veux?
Je vais demander pourquoi ça ne s'appelle pas justice, pourquoi ça doit s'appeler Nekama. Pour nous, Nekama, ça a une connotation négative et on parle de justice.
Et peut-être Nekama, c'est peut-être refaire, c'est la chanson Kiyum. C'est refaire, remettre les choses en place. Alors, pour Hachem, c'est un nom, c'est quasiment, c'est la condition divine, en fait, de pouvoir, enfin, de prendre Nekama normalement, systématiquement. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne savons pas, en général, de quel mal il s'agit réellement. Nous, on a une perception, la plupart du temps, subjective du mal. Et donc, on ne peut pas sanctionner à la hauteur du mal. Seul Hachem qui sait ce que ce mal est, ce qu'il représente, peut le sanctionner. Hachem a fait une tova à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, tu vas prendre la nekama des Bnei Israël sur Midian. Midian vous a fait du mal et vous allez maintenant régler ce problème. Israël va régler ce problème. Comment? Je vous dis, vous faites la guerre, il y a des règles, vous allez faire la guerre, et c'est moi qui vous dis que votre réponse à Midian sera la bonne réponse. vous allez faire ce que je vous ai dit de faire. Et donc, quelque part, c'est présenté par les Chachamim comme une tova qu'Hachem a faite, un chesed qu'Hachem a fait à Moshe Rabbeinu, de lui donner l'occasion de son vivant de voir la Nekama contre Midian. Pourquoi c'est la Nekama contre Midian en particulier? Je ne sais pas exactement. Ce qu'a voulu Midian, c'est très grave. Ce qu'ils ont fait, c'est très grave. Non, est-ce que c'était la chose la plus grave qui a été faite contre le clan Israël? Je ne sais pas. Pourquoi on n'a pas la Nekama contre Amalek? Pourquoi il n'a pas donné à Moshe Rabbeinu la possibilité? Peut-être parce que, comme c'est marqué, que la guerre contre Amalek, c'est une guerre d'Hachem. C'est intéressant ici dans cette affaire parce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire au Bnei Israël, prenez, vous Israël, la Nekama d'Israël contre Midian. Et Moshe Rabbeinu, quand il a parlé au Bnei Israël, il a dit, nous allons prendre la Nekama d'Hachem contre Midian. C'est-à-dire, comme si Moshe, il a le souci d'Hachem, et Hachem a le souci de clan Israël, de Midian et de Moshe. Le Gaon, je vous ai dit, il traduit Arur Haman par la Nekama contre Haman. Alors, je voulais préciser parce que je voudrais être bien sûr que dans la tête de chacune d'entre vous, il n'y ait pas la fausse idée qu'on nous demande de boire ou de dormir jusqu'au point de penser Baruch Haman et Arur Mordechai. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. D'accord ? Qui pensent que ce qu'on nous demande, c'est de penser d'inverser Haman et Mordechai. D'accord ? On met des masques, mais pas à ce point-là, quoi. Donc, n'est-ce pas ? Il s'agit bien de Arur Haman et Baruch Mordechai. C'est ces deux choses-là qu'on veut intervertir en quelque sorte. On veut dire que finalement, ça nous est égal que ça se passe comme ci ou comme ça. Mais ça reste toujours Arur Haman et Baruch Mordechai. C'est pas Arur Mordechai et Baruch Haman, Chas v'Shalom. Je voudrais bien sûr que dans la tête de chacune d'entre vous, c'est bien clair. Alors, une fois que c'est clair, on peut continuer. Donc, il s'agit d'une Nekama contre Haman. Pourquoi c'est une Nekama? Parce qu'effectivement, le clan Israël a eu l'occasion. C'est ça le Vena Fochou. Les choses se sont retournées complètement. Si vous voulez, à partir du moment où on voit dans la Megillah, il y a un tournant. Vous savez bien, le tournant de la Megillah, c'est l'insomnie de Ahasvéros. Jusqu'à l'insomnie d'Ahasvéros, la trajectoire de Haman est une trajectoire ascendante, effrayante. Mais ça tourne à ce moment-là. Donc, pourquoi est-ce que ça tourne? Vous vous souvenez? Ça tourne parce que vous pouvez dire que il y a une Ashgaha, bien sûr, déjà là-dedans. Vraisemblablement, Ahasvéros, il a consulté pour savoir pourquoi il n'arrivait pas à dormir. Mais on n'a pas osé lui dire pourquoi il n'arrivait pas à dormir. Mais il avait des très bonnes raisons de ne pas arriver à dormir. Imaginez, c'est ce qui s'est passé. Esther vient le voir pour lui demander une entrevue privée. Elle veut lui demander quelque chose, et il a bien compris. Elle veut lui demander une grande chose. Il est même prêt à donner la moitié de son royaume. Et elle ne se décide pas, elle lui dit, tu t'invites à venir demain, viens prendre un pot chez moi demain. Et elle ajoute, Amen, amen. On sait bien que n'importe qui, à la place de Arash Verosh, se poserait quand même des questions. Une femme qui vient me demander, c'est ma femme, c'est sa femme, elle vient lui demander une interview, elle veut une relation, elle veut une entrevue privée entre deux personnes mariées. Elle appelle un troisième bonhomme, enfin une troisième personne. Ça fait déjà un moment que Ahasuerus se demande s'il n'y a pas un complot entre la reine et Aman pour l'évincer. Il sait très bien que Aman veut sa place. Il n'est pas fou. Il a bien compris. Il sait très bien aussi que Aman peut à tout moment lui dire « c'est moi qui t'ai fait roi ». Vous vous souvenez, il a joué et il a perdu à Ahasuerus. Quand il a dit à Vashti qu'il la voulait, il voulait la voir là toute nue. C'est pas le problème de la nudité de Vashti qui était en cause. C'est qu'il la voulait sans les attributs royaux. J'ai déjà dit ça souvent. C'est-à-dire qu'il voulait bien que ce soit bien clair devant tout le monde, qu'elle soit là et qu'elle soit vraiment sa créature. Et la raison pour laquelle elle n'a pas voulu venir, c'est pas parce qu'il y avait des problèmes de tzniout. Elle n'a pas voulu venir parce qu'elle a bien compris de quoi il s'agissait. Elle sait bien que c'est elle, la descendante de Nebuchadnezzar, c'est pas lui. Lui, c'est personne. Elle ne voulait pas être sa créature à lui. Elle est la princesse, elle est la reine de facto. Je pense qu'il y avait une règle qu'on ne pouvait pas être reine, pas avoir le pouvoir, il faut qu'il y ait un roi. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas le roi de Perse, mais elle est la reine. Mais c'est elle la vraie. Oh. Son problème à Ahasuerus, c'est justement, il sait très bien qu'il n'est pas, qu'il est quelque part, il n'est pas vraiment le roi. C'est pour ça d'ailleurs. C'est grâce à ça, on peut parler comme ça. C'est grâce à ça que Esther a pu devenir reine. Parce que imagine, c'est impensable, c'est même invraisemblable que le roi nomme reine une femme dont il ne sait rien. Il ne sait pas d'où elle vient, il ne sait pas qui elle est, il ne sait rien d'elle. Et il ne le lui demande jamais. Parce que s'il le demandait, alors ça donnerait une importance au fait qu'elle vienne d'ici ou de là. Or, lui veut qu'elle ne soit reine que par lui. Elle est sa créature. C'est ça qui a permis à Esther de devenir reine, parce que sinon, elle n'avait aucune chance. Eh bien, ça tourne à ce moment-là. Ça tourne parce que, bon, alors, c'est vrai que c'est une drôle d'idée de la part d'Esther. C'est incompréhensible de la part d'Esther. Qu'est-ce qu'elle attendait? Pourquoi elle sait ce qu'elle... Même si elle ne sait pas comment lui demander, mais elle sait bien qu'elle est là pour obtenir qu'on abroge un décret qui a été pris par Aman. Même s'il est scellé à Ahasuerus. Tout était toujours scellé à Ahasuerus, puisque Ahasuerus avait donné son sceau à Aman. Donc Aman, il prenait les règles, il prenait les lois qu'il voulait, et il signait à Ahasuerus. Pourquoi elle amène elle veut obtenir quelque chose du roi, alors elle va amener Aman. Il n'y comprend rien, il ne peut pas dormir. Il pense qu'il y a un complot contre lui. Alors, il ne sait pas quoi faire, on lui lit les archives. Et là, ça tombe sur le complot avec le fait qu'on n'a pas récompensé Mordechai du tout. Ici, ça tourne. Parce que Aman est là. Pourquoi il est là au milieu de la nuit? Il est là au milieu de la nuit parce que Zeresh lui a dit, c'est elle qui a eu la sublime idée de d'ériger une potence de 50 amot, 25 mètres de haut, pour prendre Mordechai. On le voit de partout, on le voit pendu de partout. Un petit juif est pendu de partout. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui demande conseil. Aman, qui ne doute jamais de rien, il dit, c'est sur moi qu'on veut l'honorer. Et il demande des honneurs qui n'ont de sens que pour lui. Qui est-ce que ça pourrait bien intéresser de mettre un vêtement royal, de faire un petit tour de la ville à d'autres chevals, parce que le cheval royal est compris, voilà comment on aurait, il aurait bien... Ceux qui préféraient de l'argent, une province, un évêché, comme Louis XIV ou Louis XV savaient comment récompenser les gens qui voulaient récompenser. C'est un petit tour, c'est quoi, un tour de manège? Qui va se contenter d'un tour de manège pour avoir sauvé la vie du roi? Mais pour lui, c'était important, parce que comme le peuple ne connaissait pas le visage du roi, et que si lui se baladait dans la ville, au pas du cheval, on verrait son visage. Les gens seraient habitués à voir cette tête-là avec les attributs royaux. Il suffit de renverser le roi et les gens n'y verraient que du feu. Ils ont l'habitude de le voir, lui. Ils l'ont vu. C'est le seul qu'on voit. Le roi, vous pensez bien qu'il ne marchait pas au pas quand il rentrait il était à cheval ou bien dans son carrosse, il était à toute vitesse. On ne le voyait pas. Donc, il n'y a que lui que ça pouvait intéresser un tour de manège. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais tout ça aux Juifs, Mordechai. Ça tourne, le vent a tourné. Après, ça va une tuile, sa fille qui se suicide, etc. Et puis finalement, les choses vont tellement vite, il se retrouve au deuxième rendez-vous avec Esther et Achashverosh, et Esther, elle l'accuse, et il est pendu à la potence qu'il avait. Donc, les honneurs qu'il voulait pour lui, il a dû les donner à Mordechai, et la potence qu'il voulait pour Mordechai, il l'a prise, c'est lui qui l'a prise. C'est Venafochou. Et après, comme on est dans un royaume de cinglés, on ne peut pas, comme Achashverosh se prend quasiment pour Dieu, il ne peut pas rattraper, il ne peut pas annuler un de ses décrets. Donc quand Esther et Mordechai lui disent il faut annuler le décret qui dit que dans toutes les provinces du royaume, on va pouvoir, le 13 Adar, on va pouvoir tuer les Juifs. Il dit, non, on ne peut pas l'annuler. On ne peut pas l'annuler. C'est un décret divin. Le divin, ce n'est pas Caligula, mais le divin Achashverosh, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et on est obligé de faire la même chose que ce que lui a fait. On est obligé de contourner le décret. Il faut un contre-décret qui dise aux Juifs, avant que les Goïm se lèvent pour vous tuer, tuez-les d'abord. On envoie le même message. Et donc les Juifs vont tuer les Perses avant que les Perses ne les tuent. À la limite, si vous voulez, si on retrouvait les archives, le décret d'Achashverosh, il est encore valable. Il n'a jamais été abrogé. On ne pouvait pas. On ne peut pas l'annuler. Donc la Nekama, cette fois-ci, on l'a vu. On a vu ce que Aman projetait de faire, qu'il était en train de mettre au point, et on voit sa chute. Donc ce mal-là, c'est intéressant, c'est un mal qui n'a été que projeté, il ne s'est pas commencé, il ne s'est pas concrétisé, tout a été mis en place pour cela. Mais il n'a pas, ça ne s'est pas concrétisé, mais ça s'est concrétisé, mais contre lui, Aman. C'est ça la nekama. Là, les Juifs ont eu une nekama. C'est ça que dit le Gaon de Vilna. Il y a eu une nekama contre Aman. Il reste quand même une grande question. C'est Esther qui a fait écrire la Megillah. Enfin, elle a écrit la Megillah, disons. Avec Mordechai, mais enfin, c'est Esther Batirtov Esther. Elle a écrit. D'abord, c'est devenu un écrit. Et Purim est devenu un écrit alors que c'était oral au départ. C'est un écrit, et alors une fois que c'est écrit, alors Madame la Reine Esther, elle impose qu'on intègre cet écrit-là dans le canon biblique. Il y a 23 livres qui constituent le canon biblique. Elle dit, je veux que mon rouleau soit le 24e. Et ce sera le dernier. C'est pas elle qui veut que ce soit le dernier, mais ce sera effectivement le dernier. On n'aura plus jamais le droit d'écrire quelque chose qui va devenir Kitvé HaKodesh. Pourquoi elle va absolument le... C'est pour avoir écrit elle aussi un... Hein. C'est très étrange, n'est-ce pas, ce document. Qui ne contient pas le nom d'Hachem. C'est quand même le seul document de la Torah dans lequel il n'y a pas le nom d'Hachem. Et les Rahamim lui disent non, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on ne peut pas intégrer dans le Kitvé HaKodesh encore une fois un texte qui dit qu'on a massacré 75 000 personnes en Perse. Ils vont nous haïr et ça peut se retourner contre nous. C'est très rationnel ce qu'ils disent. Ils disent, on avait le droit d'écrire 3 endroits, etc., et pas 4. Elle dit, je veux. Et ils se sont écrasés. Ils ont accepté, ils ont trouvé une source qui leur a permis d'intégrer ce texte-là dans le canon biblique. 24e livre. Mais absolument que c'est dans le canon biblique. Quel rôle ce texte dans le canon biblique? C'est la fin. À Hanouka, il y aura un S, mais on n'aura pas le droit de l'écrire. Ça veut dire, si on l'écrit, ça ne devient pas Kitvé HaKodesh. Ce n'est pas intégrable dans le canon biblique. Alors, mettre dans le canon biblique une petite histoire finalement. C'est vrai que ça s'est bien terminé, on a été en danger, etc. Mais quand on lit le texte lui-même, qu'est-ce qu'on lit? Je pense que vous êtes comme moi, que la vérité c'est que quand nous lisons la Megillat Esther, nous qui avons l'habitude de la lire, mais ma bouche, elle lit bien ce qui est écrit. Mais ma tête, elle ne lit pas ce qui est écrit. Dans ma tête, je lis l'histoire d'Esther telle que je la comprends, telle que les Chachamim nous l'ont enseignée. Je crois qu'il n'y a personne qui lit vraiment l'histoire, enfin personne, sauf les gens qui ne la connaissent pas du tout. Mais une fois qu'on connaît l'histoire un peu, on ne lit pas du tout les choses telles qu'elles sont vraiment écrites. On les lit, oui, on lit les mots, mais dans la tête. Quand vous lisez Amelech, vous ne lisez pas Achashverosh à ce moment-là. Vous savez bien qu'Amelech, c'est Hachem. Et vous savez bien que on connaît la fin, on connaît tout. C'est quoi? Quand vous lisez le texte lui-même, franchement dit, il n'est pas très intéressant. Parce qu'il y a deux groupes qui ont lutté. Il y a un des groupes qui a réussi à mettre, à faire en sorte qu'une des femmes du groupe devienne la reine de Perse. Finalement, ils vont gagner, quoi. Le clan Mordechai a gagné contre le clan Aman. C'est tout. On pourrait se dérouler dans n'importe quelle république bananière. Bon, ça, en plus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est pas parce que des petites histoires comme ça, ça ne mérite pas d'être dans la Torah, non ? D'être dans le Tanakh. Qu'est-ce qu'elle veut, Esther ? Alors, en vérité, nous lisons Megillat Esther. Megillat, c'est un rouleau, le rouleau d'Esther. Maintenant, si on écoute un peu autrement les deux mots Megillah et Esther, dans Megillah, on entend Gilouï, et dans Esther, on entend Esther Panim. Donc, c'est comme si c'était le dévoilé du caché. Ce que nous lisons, c'est le dévoilé du caché. Ça veut dire que c'est un rouleau qui dit son nom. Je te dis des choses dévoilées, mais en réalité, je te dévoile qu'il y a du cachet dedans. Effectivement, c'est un peu caché. Mais donc il faut mettre, je pense que c'est l'essentiel de Megillat Esther. L'essentiel, ce n'est pas qu'il y a 75 000 personnes qui ont été tuées. Le chidouche, c'est le venafochou, etc. Mais ça, c'est bon, ça, on peut le lire directement. Mais il y a le cachet. Il faut quand même entendre que tout ça, c'est Hachem qui a mis ça en place. Comme on a dit, dès le départ, la Yeshua est là, parce qu'elle ne peut pas ne pas être là, vu la gravité, vu le sujet. C'est quand même, le sujet, c'est quoi? C'est la destruction totale du clan d'Israël. Et le contenu, c'est, il est impossible de détruire complètement le clan d'Israël. C'est un encouragement. On est dans le galout, on est déjà dans le galout. On est dans un galout qui est en train de prendre fin, mais qui continue quand même. Et finalement, on ne s'en remet jamais complètement de ce galout. Nous nous considérons toujours comme des Babyloniens. Le Talmud que nous utilisons, c'est le Talmud Bavli. Il s'appelle Bavli parce que avant d'être chez les Perses, on était déjà exilé à ces endroits-là, mais ça s'appelait Babel. Seulement, c'est les Mèdes et les Perses qui ont battu les Babyloniens. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Donc, on s'est retrouvé chez les Perses. Mais on est toujours dans l'exil de Babel. Donc, nous sommes dans ce... Nous vivons complètement dans cet exil-là encore. On a changé d'exil, on est déjà dans l'exil de Rome, etc. Mais on se nourrit encore fortement, principalement, on peut dire, du Talmud Bavli. Ça a donné du courage. D'accord? C'est un morceau, un texte très encourageant pour des gens qui sont en galoute. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel de ce que dit ce texte. Je crois plutôt que ce que dit ce texte de façon vraiment essentielle, c'est autre chose. Il s'agit d'un texte qui dit son nom, qui dit ce texte-là est un texte qui cache des choses en quelque sorte. Donc c'est important de savoir qu'il y a quelque chose de caché dans un texte. Sinon, on n'irait pas le chercher si on ne sait pas qu'il y a du caché. Et donc, c'est un élément qui est constitutif du Tanakh et donc qui va dire quelque chose sur la totalité du Tanakh. C'est-à-dire que dans la totalité du Tanakh, il y a du caché. C'est-à-dire que tout est un problème d'interprétation. Ce qui est fondamental, c'est l'interprétation. Le texte est fait pour être interprété. C'est comme si on entrait ici de plein pied dans la Torah chez Bappé. C'est-à-dire, tu sais, le texte écrit que tu as là, il contient la Torah écrite, chez Torah, tout ça, mais ça doit être expliqué. Ça doit être. Il faut aller chercher ce que ça veut dire. Je vais juste vous donner une indication à ce sujet-là. Nous, le Shabbat, en ce moment, on lit la troisième partie du Sefer Shemot. Le Sefer Shemot, il commence par la sortie d'Égypte. La deuxième partie, c'est le Matan Torah. Et la troisième partie, c'est le Mishkan. D'accord? Cette troisième partie, elle est très longue. Elle décrit dans le détail la collecte des matériaux et les opérations, tout ce qui va se passer. On va décrire comment des gens qui sont tous diplômés de l'école de briqueterie et qui deviennent des orfèvres qui deviennent voilà, c'est tout à fait des gens tout à fait qualifiés, quoi. Ils ont diplômé de l'école de briqueterie et ils deviennent des artisans extraordinaires qui font des choses incroyables. C'est super. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on fait de ce texte? À quoi il sert? Le Mishkan, ils l'ont déjà construit. On ne va plus jamais construire le Mishkan. On va avoir un troisième temple. La construction du troisième temple, elle est indiquée dans le Sefer Yecheskel. Ce n'est pas du tout sur le modèle du Mishkan. C'est clair? Donc, ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce que ça nous dit, ce texte? Qu'est-ce qu'on va en faire? Il nous décrit ce qui s'est passé. Bon, d'accord, ce qui s'est passé. On a eu un super tabernacle. Un Mishkan extraordinaire, transportable, etc. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas du tout comment c'est possible, n'est-ce pas? Quand on vous parle de choses qui sont en or pur, tout le monde sait qu'en or pur, on ne peut rien construire. Imaginez la menorah en or pur, elle va s'effondrer. En or pur, vous ne pouvez pas construire. En cuivre pur non plus. Bon, tout est toujours construit en, ça s'appelle du bronze ou de l'airain, enfin bref, c'est toujours des alliages. Donc, de toute manière, ce dont on nous parle ici, c'est, on ne sait même pas comment ça. Est-ce que ça tiendrait entièrement de l'ordre du miracle? Mais si c'était des miracles, alors on devrait dire qu'il y avait des miracles permanents dans le Mishkan. Et chaque fois qu'on les transportait, à chaque transport, enfin moi-même pour les transports, permanence, un miracle, pourquoi ça tient? Bien plus que ça. Les deux Batei Mikdash, ils ont été détruits. Le Mishkan n'a jamais été détruit. Le Mishkan, il a été mis de côté. Ganouz. Il est enfoncé dans la terre, il a disparu. Mais à quoi ça sert de Gonez? On ne va plus jamais le ressortir. Le Kitsour, vous avez une grande partie du Sefer Shemot qui est consacrée à quelque chose qui, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Alors, bien sûr, ça sert. Ça sert parce que c'est devenu un texte. C'est devenu un texte, uniquement un texte. Ce n'est pas un texte qui nous dit comment on va construire. On a construit. Si on avait une vocation de, je sais pas, d'antiquaire ou d'archéologue, ça pourrait peut-être nous dire, voilà, si on veut se faire une représentation de ce que c'est que ce Mishkan, tu peux essayer de te faire une représentation. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'abord assez difficiles à concevoir. Mais bon, on peut travailler, si on peut, c'est une bonne description, mais c'est tout. Mais dans ce Mishkan, avec ce Mishkan, si vous voulez, toute la suite qui va parler des korbanot, etc. Les korbanot, on va les utiliser dans le Betamikdash, mais on les amenait au temps du Mishkan. Et à la destruction du Betamikdash, ben on ne peut plus rien en faire, il n'y a plus, c'est terminé. Donc on peut, ce texte-là, on dit, on a déjà parlé de ça, on dit « Uneshama parim sfateinu », c'est-à-dire on va remplacer les taureaux, en d'autres termes les sacrifices, les animaux qu'on va porter comme sacrifices, on va les remplacer par sfateinu, par l'œuvre de nos lèvres, l'étude. Alors, c'est bien que, voilà, quand on doit apporter un korban, khatat, on va étudier la parashat khatat et ça vaut comme si on avait apporté le korban. J'ai entendu un très bon pshat, en fait, il me plaît beaucoup. Il y a la chose suivante. La première chose qui a été gnouza, qui a été mise de côté, c'est la lumière. La lumière de Bereshit, elle a fonctionné pendant 36 heures, et ensuite, Hachem l'a mise de côté parce que il ne voulait pas que les Rechaïm puissent en profiter. Cette lumière, elle était, c'était une lumière, une énergie qui était probablement vivifiante et qui avec toutes les propriétés, si vous voulez, il y avait premièrement tout le spectre, c'était à la fois des rayons X, à la fois de toutes sortes de rayons, et toutes les longueurs d'onde que vous voulez, et ça permettait de voir d'un bout à l'autre du monde, de voir à travers, etc. Vous voyez, tout était absolument clair. On aurait été dans un monde d'une clarté absolue. Et ça, Hachem n'a pas voulu que les Rechaïm en profitent. Il l'a mis dans la gnisa. Mais quand on met quelque chose dans la Gnisa, les Chachamim demandent, mais ok, c'est pourquoi ? Ça sort quand ? Et les Chachamim ont expliqué, vous savez probablement, que cette lumière-là, elle est dans la Torah chez Baal Peh. Désormais, quand on étudie la Torah chez Baal Peh, quand on étudie la Gemara, etc., la lumière qu'on en sort, l'énergie qu'on en sort, c'est cette lumière-là. Alors, cette extraordinaire clarté qu'il y a dans la Torah orale, toutes ces interprétations, toute cette multitude d'interprétations, toutes qui sont les Shivim Panim la Torah et tout ce que vous voulez dans ce genre-là, tout ça, ça vient de cette lumière qui a été mise de côté, cette lumière parfaite, originelle, qui a été mise de côté et qui maintenant, à partir de là où elle est, c'est-à-dire là où elle est Gnouza, elle rayonne en fait. Alors si on prend cette notion de Gnisa, ce qui est Ganouz, c'est là, ça veut dire que ce n'est pas disparu complètement. C'est pas comme, c'est là, on ne sait pas à portée de main, c'est caché. Mais ce qui est caché, est simplement caché, mais c'est trouvable, ça aide. Alors on peut très bien penser que c'est dans la mesure justement où le Mishkan est ganouz, il est caché, que du coup il se dévoile en ce que, quand on dit un Neshama Parim Sfatenu, le fait que quand nous étudions les choses, toujours dans la Torah orale, c'est probablement le lieu de développement du caché. C'est justement ce qui est les choses. Si c'était écrit, alors ça serait plus caché. Ce qu'Esther a écrit, c'est, elle a écrit ce qu'elle voulait écrire, ce qu'elle voulait dévoiler. Mais en disant, sachez que j'ai dévoilé quelque chose, mais pour que vous alliez chercher derrière ce qui est caché. Est-ce que Esther a voulu obtenir, c'est que ce soit une partie constitutive du Tanakh pour qu'on sache que tout le Tanakh doit être traité comme ça. Il y a son sens obvious, si vous voulez, mais il y a un sens encore plus profond et qui est infiniment profond en réalité. Quand c'est plus on creuse, on trouve, c'est d'une richesse infinie. Mais pour que ça vaille Corban, il ne suffit pas d'avoir un taureau, il faut pouvoir l'approcher. Mais on peut l'approcher, parce que le Mishkan, il est là, sous forme cachée, mais il est là. Donc avec mes paroles, d'accord, de Corban et le Mishkan qui est là, qui est accessible, si vous voulez, par ces paroles-là, alors j'ai vraiment l'accaparat. Je comprends comment je peux avoir l'accaparat. Et donc, comment je peux avoir l'accaparat seulement parce que j'ai dit le texte en question ? Non, il faut dire le texte en question en pensant qu'il y a aussi le Mishkan, il est là, il est toujours là, il rayonne en permanence, ce Mishkan. Il nous permet d'avoir des korbanot avec les paroles, avec l'étude. Ça, ce côté génial, si vous voulez, de cet enfouissement du Mishkan. Et ça, c'est une vérité qui accompagne le clan Israël en permanence. On a toujours cette possibilité, grâce à l'étude, de... C'est comme si on disait, ok, la Torah, au sens large du Tanakh, il a été donné pour que on ait l'accaparat. Concrètement, il y a eu un moment dans l'histoire où ce texte-là il s'est concrétisé en quelque sorte. Le monde, c'est le monde de, qui était inscrit dans, sous forme d'écriture, il s'est construit, c'est devenu le, en trois dimensions. Quoi. Ça s'est construit en trois dimensions. C'était là comme texte, comme si aujourd'hui, comme on a une possibilité d'imprimer en trois dimensions. Donc voilà, ça s'est imprimé en trois dimensions. Et à ce moment-là, on a apporté concrètement des korbanot, etc. Et on peut comprendre et le dire comme le Rambam, un instant, comme le Rambam le disait, enfin l'écrit, c'est qu'en réalité, la période où on a apporté vraiment les korbanot, ça, c'est une. Lui, le Rambam, il pense que c'est une. C'était une nécessité de l'heure. On était dans un moment où, à cause de l'idolâtrie, etc., on avait besoin de faire quelque chose de plus concret que simplement tout le travail intellectuel, etc. Donc voilà, cette tolérance-là, ça s'est réalisé concrètement, mais ça n'était nécessaire que pendant un certain temps. Maintenant, c'est redevenu comme c'était initialement. Et donc, on a cette situation extraordinaire, si vous voulez, qui dit que, voilà, toute l'étude, déjà dans la Torah, vous avez ça. Vous avez toute cette partie, depuis Trouma jusqu'à la fin du Sefer Shemot, tous ces psukim-là parlent du Mishkan, qui pour nous est un Mishkan enfoui. Donc, voilà. Le Mishkan enfoui, c'est-à-dire un Mishkan qui est là pour nous inspirer, pour nous permettre, dans le cadre de l'étude, bien sûr, il faut intérioriser les choses, il ne s'agit pas de dire les choses du bout des lèvres, de faire tout ce travail-là, ce travail sur nous-mêmes, ce travail sur le monde, etc. Voilà. En vérité, la grande partie de ce pchat, c'est Rachel qui me l'a donné. Parce que c'est un cours de femme, je peux le dire. Et donc, c'est ça l'idée, je crois, d'Esther. C'est pour ça qu'elle voulait absolument que ça fasse partie du Tanar pour qu'il y ait. C'est pas un élément extérieur pédagogique qui te dit comment il faut traiter, voilà. Quelque chose d'en dehors, non. C'est dans le système lui-même, dans le canon biblique en question, il y a la façon de un texte qui ne peut être interprété que comme ça, puisque il n'y a pas le nom d'Hachem du tout dedans. Donc tu vois bien qu'avec un texte, ce qui n'a pas le nom d'Hachem, ça veut dire qu'il faut le chercher ce nom d'Hachem. Il est là. Il est dans un Meller, chaque fois que ce n'est pas un Meller par Ahasuerosh, on sait bien qu'un Meller, c'est Hachem. Bon, ça, c'est facile, c'est. D'accord. Mais tout est à chercher, tout est à développer, à travailler. En vérité, c'est ça la Torah, en vérité. Alors, il nous reste, bien sûr, il y a aussi des mitzvot, où on continue de faire les gestes. Mais il y a aussi des mitzvot qu'on ne peut pas faire, d'une certaine manière, on peut aussi les travailler parce qu'elles sont inscrites dans le texte. Et donc, nous sommes un peuple du texte, en fait. On n'est pas un peuple. Alors, on est un peuple du texte interprété. Et c'est cette diversité des interprétations, toute cette richesse qu'il y a dans les interprétations, toutes celles qui sont vraies, bien sûr. Il y a toujours, chez Vim Panim la Torah, il y a aussi les Panim chez Loka Alacha. Il y a aussi les façons d'étudier le texte qui sont, comme ça s'appelle chez Loka Alacha, ça veut dire qu'ils sont hérétiques, si vous préférez. Ils sont des façons qui n'ont rien à voir avec le texte. C'est faux, c'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Ça n'a rien à voir avec la réalité. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas ça la vérité. Quelqu'un voulait dire quelque chose? J'ai interrompu.
Oui, c'était moi, Francine. En fait, je me demandais quelle est la différence entre la naissance de la loi orale à Hanouka et cette...
La différence de quoi? Attendez.
La naissance de la loi de la Torah chez BLP au moment de Hanouka.
C'est pas qu'elle est née. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah chez BLP. La Torah chez BLP, elle a jamais... Elle n'est pas née comme ça. Elle a été développée plus au moment de Hanouka. Parce que justement, comme on avait de nouveau un Beta Mikdash qui fonctionnait, alors, quelque part, on a repris une vie avec moins de, ou très peu d'études de la Torah orale. En tout cas, on n'a pas beaucoup de traces. Et à Hanouka, de nouveau, jusqu'à Hanouka, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a bien le Beit HaMikdash, mais il est complètement pourri puisqu'il est, c'est devenu un temple grec. Alors à ce moment-là, effectivement, on comprend que ça ne marche pas. Et finalement, ça, jamais, c'est vrai qu'il y a eu la royauté, mais ça va très vite se déglinguer puisque les descendants de Hachmonaïm vont devenir gréco-romains à leur tour. Et puis après, bon, ça c'est là. Après, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Après, on est vraiment complètement dans la Torah chez Balpé. Ici, c'est un commencement de Torah chez Balpé au sens où Esther, elle a mis dans le texte, elle a mis un texte qui appelle la Torah chez Balpé. Qui te dit: attention, il faut regarder différemment. C'est pas que il y a des textes qu'il faut lire aussi comme ils sont écrits. Tu as une mitzvah de manger de la matzah, il suffit pas de réfléchir à ce que ça voudrait dire la matzah et ne pas manger de matzah. C'était déjà c'est quelque chose qui a été envisagé. Alors des gens qui se trompaient. Ils disaient que, comme dit Nefesh HaRaim, tu peux toujours réfléchir tant que tu veux le soir de Pessah sur ce que veut dire le Coran de Pessah, la Matzah, Maror, etc. Mais si tu ne manges pas ce qui doit être mangé, tu n'as pas fait la mitzvah. C'est vrai que tu as réfléchi, mais ce n'est pas ça qui est demandé. Il y a des mitzvot, des mitzvot sont des mitzvot avec l'obligation de faire quelque chose. Mais là aussi, pour revenir à un fameux Sfatemet sur la menorah. Vous savez, le Sfatemet, il pose, c'est très connu, le Sfatemet pose la question, mon cher Rabbeinu, il a demandé, il ne comprenait pas comment on construit la menorah. Il faut savoir, la menorah, c'était construit à partir d'un lingot d'or. Bon, je ne vous parle pas du fait que ça ne peut pas être la question de mon cher Rabbeinu a priori. Mais comment tu fais pour avoir ces sept branches de la menorah avec les décorations, etc., avec la fleur, etc., les feuilles? Comment on fait ça? Et lui, il ne voyait pas comment c'était possible. Et Hachem lui a montré en feu une menorah. Ça fait mais tu demandes. À quoi ça sert? C'est écrit, le fourrage, que la menorah s'est faite toute seule. Est-ce que mon cher Rabbeinu avait besoin de savoir comment on l'a fait? Elle s'est faite toute seule. Alors, il explique, ça c'est déjà devenu un classique d'ailleurs, qu'en réalité, tout ce qui nous est demandé, c'est d'avoir une volonté sincère de faire ce que nous devons faire. Mais une mitzvah, c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Comme il dit, qui est-ce qui peut imaginer faire la volonté d'Hachem? C'est infini, on ne peut pas, c'est impossible. Alors, la vérité, c'est que ce qui nous est demandé, c'est de vouloir, sincèrement. Une fois que tu veux simplement, tout ce qu'on te demande, c'est de vouloir sincèrement. Le reste, ça se fait tout seul. Ce n'est pas ton problème. Et c'est ça que mon cher Abinou savait, il faut quand même que je veuille le faire. Parce que même ce qui se fait tout seul, il se fait bien à cause de la volonté de l'homme. Mais ça se fait tout seul parce que ça nous dépasse. Faire quelque chose qui est conforme à la volonté d'Hachem, bon, arriver à être à ce niveau-là, c'est impossible. Mais tout ce qui nous est demandé, c'est seulement de le vouloir. Et si tu le veux sincèrement, ben ça suffit. Ça va se faire. C'est ça qui peut donner sa vraie dimension à la mitzvah. Donc c'est toujours ça. Ça a été donné, y compris dans le Mishkan qui, au moment où ils l'ont construit. C'était comme ça. Mais c'est une leçon. Du coup, c'est devenu une leçon pour nous, pour toutes les mitzvot. Donc, on se demandait, si on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut bien apprendre du Mishkan? Voilà, c'est par exemple là, cette leçon-là, qui est une leçon fondamentale sur ce que c'est qu'une mitzvah. Ce que développe là, le Sfat Emet, c'est absolument fondamental. Il faut retenir ça. Si vous ne retenez que ça, ça suffit. Ça vaut la peine. Le Sfat Emet, c'est que tout ce qu'on te demande, c'est veuille. Veuille, mais sincèrement. Tu le veux sincèrement, et tu ne peux pas... Hachem qui veuille sincèrement tout ce qu'on te demande. Le reste, ça va se faire. Bien sûr que tu vas essayer de faire. Mais en réalité, ça prend sa vraie dimension seulement si Hachem le fait. Seul Hachem peut lui donner sa vraie dimension de être ce qu'Hachem demande. Voilà, on s'arrête là. Cette fois-ci,